Isabelle Monin, bonjour.
Bonjour.
Tout part donc un jour de l'achat sur Internet d'une enveloppe contenant des photos. Alors d'abord, moi, ça a été ma première surprise. Je découvre que sur Internet, on peut comme ça acheter des photos vendues par n'importe qui. Vous le saviez, ça ?
Je l'avais appris la veille, en fait, chez un ami qui m'avait montré sa collection de photos amateurs. Donc ce sont des photos de famille. Et comme vous, j'ai été stupéfaite. Puis assez fasciné en fait qu'on puisse acheter effectivement des souvenirs de famille,
ouais. Puisque vraiment et qu'on puisse les vendre, alors, peut-être encore plus
qu'on les vende, ça m'a scié, ouais. Et que je puisse en devenir propriétaire pour 10 €, ça m'a beaucoup intrigué et fasciné, voilà. Mais en fait après j'ai réfléchi, sur Internet on peut tout acheter, si vous regardez Le Bon Coin ou eBay, il y a tout à vendre, hein.
Mais alors, quelle est votre motivation quand vous achetez ces photos ?
À ce moment-là, vraiment, je les achète sans savoir pourquoi. Enfin, pourquoi ? Je les achète parce que je peux les acheter, que je trouve ça, fascinant. J'ai une curiosité, je pense, par rapport à ces gens qui sont sur ces photos, mais j'ai pas du tout l'idée du livre. L'idée, elle arrive un an après, en fait. L'idée de raconter qui sont ces gens dans l'enveloppe, puisque j'avais reçu une grosse enveloppe blanche. Donc je me suis dit, je vais raconter la vie de ces gens, c'est ce que je dois faire maintenant. Et je vais le faire de deux manières. Je vais le faire d'abord en inventant leur vie, puisque je suis romancière. Et puis, une fois que j'aurai terminé ma fiction, je partirai, j'essaierai de les retrouver. Donc, je partirai à leur recherche.
Mais quand vous achetez l'enveloppe, il n'y a pas déjà comme ça une petite idée derrière la
tête ? Non, vraiment pas. J'aimerais bien pouvoir.
La pulsion, c'est simplement. Par curiosité, voir.
Oui, après, j'aime les photos. Moi, j'aime la photo de toute façon depuis longtemps. Et puis, j'aime la photo ordinaire, peut-être plus que la photo artistique d'ailleurs. Je trouve qu'il y a quelque chose de très émouvant dans ces images qui sont à la fois très personnelles, souvent ratées, mais très universelles aussi, puisqu'on en a tous dans nos albums de famille, on a tous des photos comme ça. C'est une fois que je reçois le lot, donc je me dis quand même c'est dingue d'avoir 250 photos, c'est un trésor de famille en fait. Et évidemment là quand même je me dis mais qui sont ces gens ? Et donc je demande au brocanteur qui me les a vendus s'il connaît l'histoire de ces photos et d'où elles viennent. Et il me dit elles viennent de Franche-Comté. Et ça c'était la première surprise, coïncidence, c'est que moi j'ai grandi en Franche-Comté jusqu'à mon bac.
Donc ça va prendre forme comme ça, un petit peu à la fois. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un élément déclencheur à un moment donné ou à quel moment ça se cristallise pour se dire, eh ben voilà, j'ai la matière d'un livre.
Mais vraiment, c'est moi, je ne sais pas où sont les idées avant qu'elles arrivent. Mais vraiment, un jour, je me suis levée un matin et l'idée était là. Elle n'a pas changé beaucoup, en fait, depuis. C'était raconter la vie des gens dans l'enveloppe. J'avais le titre du livre, je savais qu'il s'appellerait comme ça. J'arrive pas, en fait, à répondre. C'est mystérieux, les idées. Mais je pense que tout le monde, dans sa vie, à un moment donné, a une ou des idées et on ne sait pas où elles étaient avant.
Je sais faire deux choses, inventer des histoires et enquêter, romancière, journaliste, de vie, je sais imaginer des personnages, entendre leur voix, je sais retrouver des gens et les écouter. Dans l'enveloppe, il y a tout de suite deux livres, un roman et une enquête.
Ouais.
Voilà, tout l'enjeu du livre résumé par vous, page 181.
Et moi, juste pour finir sur l'idée, pour moi, elle m'a tout de suite semblé extrêmement simple et absolument évidente, à tel point que je me suis dit, c'est impossible que personne ne l'ait eu avant, à vrai dire. Donc j'ai un peu regardé, bon, j'ai pas trouvé, peut-être que ça s'est fait avant. Hein, quand j'ai commencé à en parler à mon éditrice et tout ça, elle me dit, mais c'est fou. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était une idée folle. Moi, je la trouve pas folle, en fait. Je la trouve vraiment hyper simple. Donc je pense que c'est une bonne idée.
La première partie du livre, c'est donc la fiction, le roman. À partir des personnages qui sont sur ces photos. Quels sont les éléments qui vous ont mené, en quelque sorte, dans l'élaboration de cette fiction ?
Ouais.
C'est purement intuitif ou il y a aussi un travail de déduction ?
J'ai beaucoup regardé les photos et donc sur ces 250 photos, finalement, il y a assez peu de personnages. On voit que c'est la même famille. Les photos vont des années 60 aux années 2000, au début des années 2000. On voit que c'est la même famille, mais ils sont pas très nombreux. Il y a une petite fille, dont je me dis assez vite qu'elle doit avoir à peu près mon âge. Le décor, c'est les années 70, visiblement des gens d'un milieu social assez bas, mais pas non plus des très pauvres. Enfin voilà. Donc, je pense que je reconnais un décor qui, pour le coup, est celui de mon enfance. Donc il y a cette petite fille, je décide qu'elle s'appelle Laurence. Il y a une vieille dame qui porte des lunettes noires en toute occasion, qui est assez inquiétante. Donc je décide qu'elle sera,
ce sera la grand-mère.
Voilà, que j'appelle Mamie Poulet, ou Simone, dite Mamie Poulet. Et puis sur les photos, il y a une grande absente, c'est la mère. Il n'y a jamais de mère à cette petite fille. Donc bah là, je me dis, il y a trois solutions. Soit c'est elle qui a pris toutes les photos, mais c'est quand même bizarre. Soit elle est morte, soit elle est partie. Et bah voilà, je trouvais plus romanesque qu'elle soit partie. Donc j'ai construit l'histoire autour de ces trois personnages de femmes, la petite fille, sa mère et sa grand-mère. Et autour d'une histoire d'abandon, en fait, j'ai imaginé que la mère partait pour vivre son amour et pour quitter une espèce d'immobilité à laquelle elle se sentait attachée, quoi. Voilà.
Donc abandonne une fille, abandonne un mari.
Oui, un mari que j'ai prénommé Serge.
Alors il y a ce thème de l'abandon, du départ, et vous l'avez déjà évoqué en parallèle, celui de l'envie d'aller voir ailleurs, surtout d'essayer d'échapper à son destin, en particulier quand on appartient à une classe comme ça sociale, assez modeste, bon, enfermée dans le carcan d'une vie, enfin, pour schématiser ce qu'on appelle une vie de province. Ouais. Pourquoi ce thème-là vous intéressait particulièrement?
C'est aussi un livre, je pense, sur qu'est-ce que c'est que appartenir justement à un territoire et à une classe sociale. Alors, dans le livre, il y a des personnages qui ne pourraient pas vivre sans être dans leur milieu.
Ce qui est le cas de Serge, par exemple.
Ce qui est le cas de Serge ou de Simone, la grand-mère. Mais pour Michel, la mère, c'est étouffant. Voilà. Elle a besoin de mouvement. Elle n'est absolument pas rassurée par la routine de ce qui est connu et toujours répété et des lieux comme ça qu'on arpente de la naissance à la mort. Au contraire, ça l'angoisse. Donc, moi, ça m'intéressait de creuser un personnage, oui, qui rompt, en fait, avec la fatalité sociale et géographique.
Et géographique.
Donc, elle part. Mais elle part vraiment.
Alors, quand vous êtes dans cette partie fictionnelle, est-ce que déjà vous pensez à ce que pourrait donner éventuellement l'enquête et à imaginer que peut-être les personnages pourraient correspondre ou
non,
pas,
vraiment,
ou pas du tout?
Alors là, dans ma tête,
dans votre tête, il y a une véritable frontière, une cloison.
Oui, à tel point qu'au moment où je rédigeais le roman, je regardais très peu les photos, en fait. Très peu, vraiment. Je les avais en tête, certaines. D'ailleurs, après coup, j'ai découvert des personnages que je n'avais même pas vus, qui étaient pourtant présents sur les photos, mais je les regardais très peu. Je pense que j'avais besoin de protéger mon imaginaire, en fait, du réel, de le laisser lui aussi libre.
Et ensuite, on passe à l'enquête. Donc là, on retrouve la journaliste.
Ouais, le journal de l'enquête.
Isabelle Monin. La première chose, évidemment, c'est tenter de les localiser plus précisément. Alors, on ne peut pas le raconter parce que ça se lit presque comme un polar. Il y a un véritable suspense. Vous savez que ces photos viennent quasiment de chez vous. Et puis, on peut dire juste peut-être une petite chose, c'est qu'il y a une coïncidence incroyable. Vous allez réussir à retrouver le village de cette famille grâce à un détail qui est le clocher.
Le clocher
de ce village sur l'une de ces photos. Et c'est là aujourd'hui où on s'aperçoit qu'avec Internet, Google, on peut quasiment tout retrouver.
C'était assez incroyable parce que vraiment ces photos n'étaient quasiment pas légendées. Donc il y avait presque aucun nom de lieu, pas de nom de famille. Donc la Franche-Comté, c'est une petite région, mais quand même assez vaste. Et un jour, j'ai regardé attentivement une des photos. C'est une photo où la petite fille, Laurence, que j'avais appelée Laurence, pose avec un vieil homme. Et derrière, en arrière-fond, il y a le village. Et donc, il y a ce clocher qui a une particularité que je n'avais pas remarquée au début. Évidemment, il a une bande blanche sous son horloge. Et je me suis dit...
Et puis peut-être qu'on...
Si tu trouves le clocher.
Ouais, mais moi je suis pour qu'on ne le raconte pas.
D'accord.
Grâce
D'accord.
à cette petite particularité.
Voilà.
Eh bien, c'est le fil par lequel vous allez tout dénouer et retrouver le village de cette famille. Vraiment, je le redis, ça se lit comme un polar. Mais pourquoi cette volonté d'aller retrouver ces gens, puisque là, il y a eu la puissance de l'imaginaire, de la fiction, et le livre pouvait s'arrêter là?
J'aurais jamais fait juste un roman, en fait. Voilà. Cette volonté, c'est que d'abord, je crois absolument pas qu'il y a des vies ordinaires. Donc moi, j'avais une crainte, c'était de ne pas les retrouver. Mais je savais, j'avais la conviction, la confiance que si je les retrouvais, leur vie, elle serait passionnante. Puisque moi, je crois vraiment que chaque vie est passionnante. On a tous des histoires dans les familles. Il y a toujours des histoires, des drames, des choses très joyeuses, des choses étonnantes, etc. Mais il y a un truc plus profond, sans doute, c'est que je crois que depuis le début que j'écris, en fait, je ne fais que ça, essayer de conserver les traces des vies des gens. Pour moi, les livres sont des tombeaux, en fait, des endroits où on peut vraiment mettre ce qui reste d'une vie. Donc je pense que c'est aussi un travail de mémoire. Qui m'est très cher, pour le coup.
C'est ce que j'allais dire, et qui fait écho aussi à votre œuvre, puisque deux de vos livres, Les vies extraordinaires de Gênes, et aussi dans Daffodil Silver, ce sont deux livres tombeaux.
Tout à fait.
L'un pour un enfant perdu, et l'autre pour une sœur. Je vous cite, « Je crois que toute vie vaut la peine d'être racontée. Chaque vie est un témoignage de toutes les autres. On racontera une époque, une terre, un petit monde. On racontera la vie des gens dont on ne parle jamais. Elle vaut autant que celle dont on parle autant et aussi peu. Je crois à ça, dur comme fer, que c'est même la seule chose en laquelle je crois. »
Ouais. Et vous savez, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand je les ai retrouvés, la première chose qu'ils m'ont dite, enfin une des premières choses qu'ils m'ont dites, c'est mais nos vies n'ont pas d'intérêt.
Ouais. Ce qui est le cas de Serge, qui dans la réalité se prénomme Michel. C'est tout de suite sa réaction.
Oui, Michel, il était stupéfait que quelqu'un s'intéresse à lui. Comme si ils avaient intégré le fait qu'il y avait des vies extraordinaires, je sais pas, les gens qui passent à la télé ou à la radio, je sais pas, ou voilà, et que leur vie à eux, mais alors ça veut dire des millions de vies, hein, puisque quand même il y a beaucoup de gens
ils sont ce qu'on appelle les invisibles.
Oui, mais ça m'a tordu le cœur en fait qu'ils aient intégré cette dévalorisation en fait. Voilà, donc si mon livre peut servir à ça, ça sera bien. Cette deuxième partie, qui est donc le journal de l'enquête, pour moi, elle n'est pas moins littéraire que la première. C'est une autre façon de raconter, mais c'est une autre langue. Donc là, j'ai choisi le mode du journal au jour le jour, vraiment tel que je l'ai vécu moi. Mais ce n'est pas pour autant mal écrit ou jeté comme ça. Quoi. Je tiens beaucoup à ce qu'on dise que c'est aussi une tentative de littérature, en tout cas.
Alors, évidemment, la similitude la plus incroyable, c'est la petite fille que vous avez prénommée Laurence.
Et quand vous la Laurence.
Voilà, quand vous la rencontrez, elle se prénomme en effet Laurence.
Ouais. Ouais.
Est-ce que c'est un hasard?
Je crois pas. Je pense que c'est une conséquence. Enfin, c'est de la sociologie. C'est pas du hasard. Voilà. Alors, elle aime pas que je dise ça. Je crois que Laurence a une tête de Laurence. Comme sans doute j'ai une tête d'Isabelle, que vous avez une tête de Bernard. C'est-à-dire que Laurence, surtout en plus dans les années 70, peut-être maintenant avec la profusion des prénoms, ça serait différent. Mais voilà, dans les années 70, une petite fille qui naissait dans ce milieu-là, elle avait quand même assez peu de prénoms à sa disposition. Isabelle, Stéphanie, Sandrine, Laurence, Nathalie. Bon. J'ai choisi Laurence parce que ça correspondait à quelque chose de mon roman. Je voulais qu'il y ait un lien avec l'eau. Mais voilà, elle a une tête de Laurence, ça lui va très bien. Et sa maman m'a raconté d'ailleurs qu'elle avait hésité entre Isabelle et Laurence pour la prénommer. Voilà.
Et qu'est-ce qui fait l'universalité de ce livre?
Mais c'est à vous que je devrais poser cette question. Qu'est-ce que je sais?
C'est notre histoire. Ce qui est vraiment formidable avec ce livre, c'est qu'on se dit que nous sommes tous des personnages de romans. En tout cas,
oui,
qu'on peut
alors
le devenir.
J'ai une amie
et peu importe nos vies.
C'est faire œuvre de vie ordinaire, en fait. C'est une amie qui m'a dit ça. Je trouvais que c'était assez bien résumé, là, pour le coup.
Il y a une dernière dimension à ce livre. Oui. C'est la collaboration avec Alex Baupin, qui est un ami d'enfance.
Oui.
C'est ça.
Qui vient, comme moi, de Besançon.
Voilà. Donc, le livre est accompagné d'un CD avec des chansons créées par Alex Baupin. Cette idée-là, elle est venue. Dès le départ du projet ou au fur et à mesure de vos conversations?
Elle est venue quelques mois plus tard. Ça faisait un moment qu'on cherchait un projet sur lequel travailler ensemble. Et puis voilà, on éclusait plusieurs idées. Puis un jour, il m'a dit, mais en fait, on est bête de chercher autre chose. Le sujet, c'est l'enveloppe. Et donc, il a proposé de composer un disque qui est formé à la fois de chansons inédites qu'il a écrites à partir de mon roman, comme une quatrième partie. Vraiment, pour moi, ce n'est pas un bonus au livre. Et puis, pour la partie plus documentaire, il m'avait dit, si tu les retrouves, demande-leur quelles sont les chansons qui ont compté pour eux. Et puis, on en fera des reprises. Donc, je lui ai dit, c'est Émilie Joly et Les Mots Bleus. Et il m'a dit, mais en fait, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on leur propose de les chanter. Et donc, elles ont accepté. Laurence et sa maman chantent donc dans le disque.
Il y a un refrain qui revient comme ça sur Clerval.
Oui, à Clerval sur le pavé. J'ai trouvé dans des archives du village la mention de ce quatrain. Et voilà, j'en ai fait une photo que j'ai envoyée à Alex. Et du coup, il a eu cette très jolie idée d'écrire à partir de ça une espèce de, pas de comptine, mais de mélopée comme ça populaire, à la manière d'une mélopée populaire qui court en fait tout le long de l'album.
À Clerval, sur le pavé, il y a des filles à marier, il y en a des petites et des grandes, elles sont toutes à marier. Et personne ne les demande.